Donc, pour commencer avec l'oralité coloniale, le premier chapitre est donc, comme je le disais, divisé en deux parties. Le colonialisme des habitations d'abord, ensuite le colonialisme que je qualifie de républicain, allant de la Troisième République. Donc ce premier chapitre me permet d'introduire le Guoka comme un produit de la créolisation, que je comprends comme un processus d'adaptation au système colonial. La créolisation est non seulement un procédé créatif de syncrétisme, mais aussi, est aussi un processus qui permet à de nouvelles expressions culturelles de prendre racine et de se développer de façon originale. On peut développer la définition et expliquer un peu plus tard pourquoi elle est importante. Le Guoka est né en bordure de la plantation, c'est-à-dire ni tout à fait en dehors, ni tout à fait en dedans. Il exprime la nécessité de s'adapter à la violence esclavagiste, d'y résister, sans pouvoir réellement y échapper. Nous disposons malheureusement de peu d'écrits sur les pratiques du tambour dans les colonies françaises d'Amérique. Ceux qui existent ont tous été écrits par des témoins impliqués directement dans le système colonial. Les gens mis en esclavage qui pratiquaient ces musiques n'ont laissé aucune trace, ni sonore, ni écrite. Les écrits dont nous disposons sont donc imprécis et empreints des préjugés racistes de leurs auteurs. Ils offrent une trace silencieuse. Néanmoins, ils permettent de tirer des conclusions importantes sur le rôle de la musique sur et autour de la plantation et la place du tambour dans l'oralité coloniale. Premièrement, il faut reconnaître que les musiques noires faisaient partie intégrale du paysage sonore de la plantation. S'il est indéniable que l'administration coloniale redoutait et combattait tout rassemblement d'esclaves, et donc se propice aux pratiques musicales, certains planteurs, eux, les encourageaient, voyant là une sorte de valve de sécurité ou un nécessaire défouloir. Interdits, encouragés ou simplement tolérés, les rassemblements d'esclaves autour du tambour ont joué un rôle essentiel pour la création d'institutions en marge de la plantation. S'il est improbable que le tambour ait réellement et directement servi de moyen de communication entre des esclaves en marronnage, en tout cas en Guadeloupe, les danses autour du tambour ont facilité la circulation d'informations et ont permis la création de nouvelles solidarités, des rassemblements des esclaves au sein de nations qui ont ainsi posé des bases pour l'émergence d'institutions de solidarité, comme les sociétés d'entraide au cœur de la société coloniale. Le travail de Les Noirs Laitants là-dessus parle de ce processus. Deuxième conclusion, c'est que les pratiques de musique et de danse associées au tambour ont permis la préservation de traces mémorielles. La créolisation n'efface pas complètement les éléments qui la nourrissent. Ceux-ci continuent d'être présents en tant que traces. Qu'il s'agisse des techniques de construction d'instruments de musique, des esthétiques musicales et gestuelles ou des rituels qui accompagnaient ces instruments, la pratique des musiques en marge de la plantation a servi à contrecarrer l'acculturation qui accompagnait le passage du milieu. Par la pratique du tambour, les traces africaines ont été activées, transmises et enrichies. Mais le pouvoir le plus important du tambour à l'époque coloniale réside dans sa potentialité. C'est mon troisième point. Les danses au tambour n'offraient pas une opposition directe au pouvoir colonial, mais elles offraient un espace de fugitivité, de dérobade, ce que Glissant appelle un détour. Je n'emploie pas ces termes dans le sens littéral d'une fuite physique, d'un grand marronnage, bien que cela ait bien sûr pu arriver, mais dans le sens où la pratique et la signification sociale et symbolique de la danse échappaient au contrôle et à la compréhension des pouvoirs coloniaux. Sans savoir si les tambours ou les danses aient oui ou non servi de moyen de communication et permis l'organisation de révoltes en Guadeloupe, nous savons que ce potentiel était de toute façon présent dans l'esprit et l'imagination des planteurs. Pour les esclaves, les danses offraient un espace cathartique où pouvait être cultivée une façon d'être au monde qui échappait au contrôle colonial. Face à l'aliénation, la musique et la danse permettaient aux esclaves d'affirmer leur humanité. Comme l'a indiqué mon collègue Ron Rodano, la danse et la musique étaient la propriété inaliénable de personnes elles-mêmes réduites à l'état de propriété. Mais je tiens une fois de plus à rappeler que les danses au tambour n'existaient pas en dehors de la culture coloniale, mais en sa zone liminale. Elles participent d'un engagement avec la culture dominante, d'une négociation. Elles illustrent le fait que le potentiel de résistance a toujours été immanent plutôt qu'externe au système colonial. C'est-à-dire que le système colonial a toujours contenu, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le sens de contenir, avoir comme élément constitutif, mais aussi contenir dans le sens d'empêcher ou réprimer, le système colonial a toujours contenu la possibilité de résistance. Pour moi, le pouvoir du tambour n'est pas dans la fuite de la plantation, mais dans le potentiel de pouvoir exister autrement en son sein. Je suis d'accord ici avec, dans mon analyse avec le travail de Marie-Céline Lafontaine. Les musiques guadeloupéennes que nous connaissons aujourd'hui émergent grosso modo dans les formes que nous leur connaissons entre la seconde abolition de l'esclavage et la Première Guerre mondiale. Que ce soit les musiques à tambour, la biguine, le quadri, la langue créole, tous ces éléments-là participent à ce moment-là, dans cette période-là, à ce que j'appelle une oralité contestée de la période coloniale républicaine, soumise aux pressions de l'assimilation et à la résistance qu'elle engendre. Je n'ai pas le temps de développer tout ça ici, parce que je parlerai pendant des heures, mais je veux conclure un peu cette discussion du premier chapitre, simplement sur le moment de départementalisation que je lis comme un détour. Je vois la départementalisation et je pense que c'était l'analyse, en tout cas ce qu'espérait faire Césaire, c'est comme un effort de décoloniser la République en la transformant de l'intérieur, en la confrontant à ses contradictions et en demandant l'application réelle de ses idéaux. Césaire a parlé de la départementalisation comme une ruse de l'histoire, mais même lui était forcé de poser la question : qui a rusé et qui s'est fait ruser ?